Salut, c'est Odile.
Salut, c'est Olivier.
Salut, c'est Nathalie.
À la bonne heure, le mag Région Sud-Est.
Des musiques, des chroniques, des invités.
De midi 10 à 13h.
À la bonne heure.
Quoi ?
À la bonne heure.
Sur Fréquence Mistral, bien sûr.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans le magazine du midi en direct depuis Briançon. Aujourd'hui, vous le savez, c'est la journée internationale pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Et oui, vous en entendez parler partout. Et pour cause, il y a malheureusement encore beaucoup à dire et à faire sur le sujet. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir trois invités aujourd'hui. Anaïque de la librairie Voyage au bout des livres, en direct avec nous exceptionnellement pour votre chronique littéraire hebdomadaire, vous l'entendez à l'antenne toutes les semaines. Et également Olivier Persicot, officier de prévention au commissariat de Briançon, et Catherine Morana, chef du commissariat de Briançon. Nous allons parler enjeux, actualités, actions pour la prise en charge des victimes de violences dans le territoire du Briançonnais. Ce seront donc les sujets du jour. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour Marion.
Bonjour.
Donc merci d'être avec nous. Est-ce que tout le monde va bien autour de la table ?
Très bien et merci pour l'invitation.
Vous avez l'habitude, auditeurs et auditrices, toutes les semaines nous avons notre chronique littéraire. Anaïque, tu es avec nous aujourd'hui. Qu'est-ce que tu nous as sélectionné pour cette journée ?
Alors, pour cette journée contre les violences sexistes et sexuelles, je vous ai sélectionné quelques livres, du coup malheureusement pas tous très joyeux, mais qui me semblent d'une importance assez capitale. Pour commencer assez fermement, je vais vous présenter le livre de Manon Garcia, qui est philosophe et qui, à partir du procès Pellico, a écrit un livre sur vivre avec les hommes. C'est un livre qui mêle philosophie, sociologie et une réflexion sur comment aujourd'hui être une femme après MeToo. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut encore essayer de partager un espace public ou même privé avec les hommes? Elle s'interroge aussi sur sa propre vie, son expérience de femme hétérosexuelle de 40 ans, sur l'évolution des questions de consentement ou des questions de genre dans l'intimité comme dans le public. Et c'est un livre qui me paraît d'une importance capitale aujourd'hui sur comment essayer d'avancer en mêlant les différents genres. Ensuite, dans des livres plus côté roman, les tous deux sont parus chez J'ai lu. C'est des livres qui sont en poche, vous pouvez les trouver à des petits prix accessibles. Je vous annonce tout de suite, c'est des livres assez durs qui traitent justement de ce sujet-là. On a d'abord le livre de Emma Deruchy, ça s'appelle « La femme que nous sommes ». C'est l'histoire de cette femme qui a pris sa décision, elle va quitter son compagnon, elle va quitter ce couple dans lequel elle n'est pas en sécurité. Elle a tout préparé, elle a préparé sa valise, elle a préparé les affaires de sa petite fille de 3 ans et il ne lui reste plus qu'une journée, quelques détails et puis elle va tenir avant de partir. Donc c'est le portrait de cette femme sur les derniers jours. Une fois que cette décision est prise, elle a réussi à se dire qu'elle va arriver à quitter ce cercle de violence dans lequel elle se trouve et je vous laisse découvrir comment ça se passe pour elle. Ensuite, je reviens sur un classique un peu dans le genre, c'est le livre d'Amélie Cordonnier, ça s'appelle « Trancher ». Ce livre avait eu beaucoup d'impact au moment de sa publication et on est toujours dans ce thème-là. À la veille des 40 ans de cette femme, dont le quotidien est déchiré par les insultes, les coups, cette femme décide qu'elle va partir aussi, que pour ses 40 ans, elle se protégera elle-même et elle va fuir. C'est une réflexion sur comment s'instaure cette violence conjugale, comment elle en est arrivée là. Évidemment, ça ne commence pas par des coups, on vous en parlera tout à l'heure. Ça commence de manière bien plus insidieuse et ça, c'est tentaculaire, ça s'installe dans toutes les strates d'une relation. Donc voilà, deux livres qui, je vous l'annonce, sont assez durs. Vous savez dans quoi vous allez vous engager. Ensuite, pour essayer d'être un peu plus dans la réparation, je vous conseille toute l'œuvre de la poétesse Rupi Kaur. Donc, elle est indienne et américaine. Et celui-ci en particulier s'appelle Milk and Honey, lait et miel. C'est un livre de poésie qui mêle dessins et poèmes. C'est très accessible. Ce sont des textes très courts, très brefs. Ça parle de reconstruction, ça parle de violence faite au corps, ça parle d'accepter son propre corps, ça parle vraiment de survie, de sang, de larmes, de sueur. Mais en tout cas, c'est vraiment un texte qui peut bouleverser car mettre des mots extrêmement justes sur les violences qu'on a pu ressentir, c'est devenu assez universel. Si ça vous fait un peu peur, parce que ça reste de la poésie extrêmement violente, Son autre recueil de poèmes, Le soleil et ses fleurs, est un peu plus doux, un peu plus accessible. Et ensuite, ça me tenait à cœur de vous parler de deux autres livres. Donc, par exemple, le livre de Anna Toumazov qui s'appelle « Ta vie sans filtre », donc de alcool à voyage, je crois. C'est un dico pour ados. C'est un dico qui va parler de toutes les questions que les adolescents et les adolescentes peuvent se poser. Et cette fois-ci, contrairement à l'encyclopédie que certaines d'entre nous ont dû connaître dans leur adolescence, que je vous déconseille au plus haut point, cette fois-ci, Anna Toumazov fait un travail exceptionnel à parler de consentement, de violence, aussi de plaisir, de voyage, de drogue, de limites, et à donner une approche de la sexualité et des rapports à l'autre hyper intéressante. Construite et très très moderne. Je pense que c'est essentiel pour éduquer autant les adolescents que les adolescentes. Et ensuite, en dernier, j'avais le livre à vous conseiller de Aurélie Blanc qui s'appelle « Tu seras féministe, mon fils » et qui est toujours dans cette veine de « il faut responsabiliser les hommes et il faut éduquer les enfants pour qu'il y ait moins, essayer désespérément de réduire un peu le nombre de violences qui sont liées du coup au genre de des femmes ». Merci à tous et à toutes. Et merci Marion.
Merci Anaïk pour cette sélection. Un petit mot quand même, demain vous invitez à la librairie le collectif féministe pour poursuivre cette journée, cette thématique.
Oui, alors le collectif féministe du Briançonnais se réunit demain devant la librairie, donc devant la librairie et devant l'association de coworking K9. C'est juste devant le marché. Donc ça va être un petit espace de partage et d'échange. Il y aura évidemment des petits cafés, du thé et surtout la chorale féministe sera là pour chanter certains des chants qu'elles ont sélectionnés. Et c'est aussi un moment de sensibilisation pour venir échanger, parler, demander de l'aide ou juste des conseils, un soutien. L'idée c'est aussi de parler de certains mots clés dans cette lutte contre les VSS.
Et nous en évoquerons certains juste après avec nos deux invités. Je vous propose une première pause musicale. Merci Anaïk pour cette sélection. Et on écoute justement un hymne féministe connu, Debout les femmes. Alors pour rappel, c'était d'abord un chant allemand créé en 1933 par des prisonniers communistes d'un camp de concentration en Allemagne. Les paroles ont été reprises des années plus tard, en 1971, par le MLF, le Mouvement de Libération des Femmes. Ici, il est chanté par le collectif, un collectif de femmes Grand Est, chanté en 2022.
Toi,
moi,
moi,
elle.
Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire,
nous qui n'avons pas d'histoire.
Plus de l'autre ignorée.
C'est Olivier.
C'est à la bonne heure, le mag Région Sud-Est.
Des musiques, des chroniques, des invités.
De midi 10 à 13h.
À la bonne heure.
Quoi ?
À la bonne heure.
Sur Fréquence Mistral, bien sûr.
Bienvenue au magazine régional Sud-Est de Fréquence Mistral.
Et aujourd'hui dans le magazine du midi, nous parlons de la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Nous sommes en présence d'Olivier Persicot, officier de prévention au commissariat de Briançon, et Catherine Morana, chef du commissariat, pour parler donc de tout ce qui est fait par le commissariat ici à Briançon et ailleurs également. Peut-être vous voulez rebondir sur la chronique littéraire, sur la section de livres d'Anaïs que nous avons entendu tout à l'heure.
Oui, ben c'est intéressant, puis surtout ça nous ramène à ce sentiment qu'on peut ressentir quand on n'a pas pu intervenir à temps, et la douleur hein, qu'on peut ressentir en tant que policier, en tant qu'humain, en tant que femme et homme, et tout le travail qui doit être fait en amont pour que les femmes osent franchir ce pas avant qu'il soit trop tard.
Oui, notamment sur les histoires de femmes qui sont dans des violences conjugales et qui veulent en partir.
Oui, exactement.
Alors peut-être pour commencer, est-ce que vous pourriez nous expliquer votre rôle au sein du commissariat, vos actions sur cette thématique-là ? Alors peut-être pas sur cette thématique-là déjà, qu'est-ce que vous faites dans le commissariat ? Quelles sont vos missions ?
Alors, en tant qu'officier de prévention, j'ai plusieurs rôles, donc de prévention comme son nom l'indique. Donc auprès de nombreux publics, hein, ça peut être des enfants maternels jusqu'aux retraités et même aux personnes professionnelles, ça dépend de tout ça, des thèmes. Donc c'est selon les demandes qu'on peut me faire dans différentes thématiques, voilà, comme je vous le disais. Et puis après ça, j'ai aussi sur la sécurité bâtimentaire, ça peut être informatique, ça peut être aussi l'organisation du travail au sein du commissariat. Donc j'ai de nombreuses casquettes. Et il y a encore très peu de temps, j'étais enquêteur plaintier au commissariat.
Et vous ne l'êtes plus ?
Pas pour l'instant, non, mais ça peut revenir.
Les autres missions prennent déjà un plein temps.
Oui, ça me prend beaucoup de temps, mais on ne sait pas de quoi ma carrière sera faite. Je fais aussi la promotion du métier de la police. Voilà.
Et Catherine Morana ?
Moi, donc, je suis chef du commissariat. Je suis arrivée à Briançon le 1er juillet. Je venais de Marseille, où j'ai exercé d'autres fonctions très différentes avant. Donc voilà, depuis le 1er juillet, je suis responsable de ce beau commissariat le plus haut de France. Et j'apprends à découvrir à la fois les fonctionnaires qui travaillent, les habitants de la ville et tous les partenaires. Et donc mon emploi du temps est évidemment aussi bien chargé. Et parmi mes fonctions, il y a le fait d'essayer d'accueillir au mieux les femmes.
Les femmes, oui. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir un petit état des lieux de la situation dans le Briançonnais ?
Alors, dans le Briançonnais, de manière générale, il n'y a pas d'augmentation cette année par rapport à l'année dernière. Les violences faites aux femmes sont relativement stables. Elles ne sont pas en grand déclin, malheureusement, mais elles sont contenues, on va dire. La violence faite aux femmes est contenue chez nous. Alors, on peut aussi noter qu'il y a eu pendant les années précédentes des augmentations, mais qui peuvent s'expliquer par le fait que les femmes ont enfin osé parler et que les policiers ont réussi à les accueillir peut-être mieux que ce qui avait été le cas à d'autres moments. Donc voilà, une vraie stabilité quand même chez nous et un travail au quotidien.
Donc lorsqu'on parle de stabilité, on parle de données du nombre de plaintes faites au commissariat de Briançon.
C'est ça, parce que nous, en termes de police, c'est notre outil d'évaluation. Olivier pourra vous expliquer qu'il y a d'autres moyens d'évaluation. Mais nous, c'est notre outil à nous, cet outil statistique qui permet de savoir combien de femmes se sont déplacées pour déposer plainte.
D'accord. Peut-être que Olivier Versicaud, vous pouvez nous expliquer alors ces autres données.
Oui, en effet. Alors, c'est surtout important de préciser de quoi on parle quand on parle de violence, mais même dans les autres sujets. Quand je fais de la prévention sur les fausses informations, sur les fake news, je dis bien aux enfants qu'il faut qu'ils soient bien précis. Donc quand on parle de violences faites aux femmes, est-ce qu'on parle de déclarations? Voilà, des femmes qui déclarent, elles ont été victimes ou pas. Est-ce qu'on parle de dépôt de plainte? Est-ce que les femmes ont déposé plainte au commissariat ou non? Ou est-ce qu'on parle de nombre de condamnations? Donc ces trois chiffres-là sont des chiffres qui sont bien différents et qu'il faut à chaque fois préciser quand on avance des chiffres précis. Voilà, c'est pour ça que c'est très important qu'on sache de quoi on parle.
Oui, puisqu'on imagine bien qu'il y en a certains dans ces chiffres qui sont plus importants que d'autres, entre le nombre de personnes qui se disent victimes et le nombre de personnes qui sont reconnues victimes par la justice, il y a un grand écart.
Forcément, il y a un grand écart. Il y a un grand écart pourquoi ? Parce que c'est peut-être plus facile de se déclarer victime de violence par téléphone ou selon l'institut de sondage ou autre qu'on a pu faire que d'arriver à mettre une plainte sur ce qu'on veut faire. Donc on a déjà un décalage au niveau du nombre à ce niveau-là. Et puis après aussi, il faut que les enquêteurs, nous, on puisse trouver des éléments suffisamment probants pour que le magistrat, derrière, puisse avoir de quoi condamner la personne. Donc on peut très bien avoir des personnes qui ne sont pas condamnées, mais qui ont été auteurs, pour autant. On parle quand même de faits qui sont faits dans l'intimité. Donc c'est très très compliqué d'arriver à avoir tout ça. Donc entre le premier chiffre et le dernier, il y a forcément un delta.
Et je précise qu'en fait, en droit pénal, il y a quelque chose qui est très important, c'est l'élément matériel et l'élément moral. Sur quasiment toutes les infractions, les deux doivent être combinés. Et en fait, on ne peut pas se contenter des déclarations d'une personne. Il faut aussi qu'on ait des éléments objectifs pour pouvoir ensuite qu'un auteur soit condamné.
Oui, on va revenir justement sur toutes les étapes, tout ce processus. Quelles sont vos missions en lien avec la lutte contre les violences faites aux femmes au commissariat ?
Donc il y a encore très peu de temps, comme je vous le disais, je prenais les plaintes et je procédais aux enquêtes qui étaient derrière, avec tout ce que ça implique. Et actuellement, je propose des séances de prévention, notamment aux établissements scolaires, principalement lycée, mais également au collège, pour que les enfants puissent comprendre déjà dès cet âge-là le rapport qu'il peut y avoir dans un couple, entre l'homme et la femme, ou entre deux personnes en tout cas. Et avoir les notions donc, de différence qu'il peut y avoir entre les violences et les disputes. C'est des choses qui sont très très compliquées pour eux à comprendre au départ.
Donc il y a la plainte, la prévention. Vous conseillez aussi, vous vous envoyez vers d'autres acteurs du territoire
Oui, quand on est dans le processus judiciaire de la plainte, effectivement, on a une première partie, on relève les informations, on rassure la personne tant qu'on peut par rapport à notre niveau. Et après, on va l'amener à pouvoir se reconstruire, à pouvoir se soigner, à pouvoir faire tout ça. Et donc là, forcément, on est en lien avec des associations, on est en lien avec des organisations départementales pour certaines, et également médicales, parce qu'il faut que la personne arrive à se soigner d'elle-même et qu'elle aille mieux.
Je vous propose qu'on parle déjà de la plainte et puis on pourra parler de la prévention ensuite. Sur la plainte, quelles sont les étapes, justement? On en parlait, peut-être qu'on peut les détailler maintenant, d'une démarche de plainte.
Donc une femme va venir au commissariat, et une femme ou un homme, hein, parce qu'évidemment il y a aussi deux hommes, mais là on parle des violences faites aux femmes, elle va déposer une plainte. Donc le premier objectif, c'est que le policier qui la reçoit saisisse bien tout ce qu'elle essaye de dire, aille peut-être chercher parfois ce qu'elle n'ose pas dire, parce que quelqu'un peut venir déposer plainte et parler d'une seule chose, et qu'en fait ça va cacher toute une montagne derrière. Donc arriver à établir un vrai lien avec la personne qui dépose plainte, ça fait partie des missions du policier. Et donc ensuite l'écouter, noter tout ce qu'elle a à dire et ensuite la mettre en lien notamment avec Mediavic, avec les associations dont on vous a parlé. Faire très rapidement un avis parquet, ça c'est des choses qui ont été mises en place, je ne sais pas il y a combien de temps, il y a combien d'années ici, mais en tous les cas l'avis parquet il est extrêmement important pour permettre aux magistrats d'être informés de ce qui se passe.
En quoi consiste cet avis parquet?
C'est quoi? Appeler le procureur et lui dire voilà, on a telle personne qui est là, elle dépose plainte pour ces faits de violence conjugale, pour qu'il y ait une information immédiate, puisque c'est une véritable priorité judiciaire et policière, et pour que le parquet puisse prendre une décision rapide, s'il y a besoin qu'il y ait une décision rapide qui soit prise.
Et la décision consiste en... C'est une décision d'enquête, d'ouverture?
Alors, ouverture d'enquête, et puis ça peut être une mesure de protection, s'il y a besoin. S'il y a besoin rapidement de faire en sorte que la femme soit protégée.
Oui, on peut avoir... donc déjà, c'est important aussi de mettre la justice tout de suite en termes de temps, de délai, dans les informations, l'aviser de tout ce qu'on peut faire. Après, effectivement, et ils vont aussi nous dire dans quel délai ils veulent qu'on ait notre réponse. Nous, en tant que policiers, s'il faut qu'on envisage tout de suite un relogement, une interpellation, ou si on peut avoir un petit peu plus de temps, si on peut laisser voir les choses aussi dans certains cas. Les cas de violence conjugale sont multiples et uniques à chaque fois. Donc on a vraiment des problématiques différentes. Et puis on a des demandes qui vont être différentes de la victime. On a des victimes qui vont arriver et qui vont dire « je ne veux pas déposer plainte ». Je veux juste vous en parler. Je veux juste une main courante. Je ne veux pas que vous entendiez mon mari. Je ne veux pas que vous veniez... Et donc là, il va y avoir des décisions qui vont être très très importantes pour nous à prendre. Donc on va prendre le maximum de renseignements qu'on aura pu prendre avec la victime. Et ensuite, avec le magistrat, il y aura une discussion de ce qu'on aura eu comme information, du ressenti qu'on aura, des informations qu'on aura aussi sur le mari, s'il est chasseur, s'il a des tirs sportifs, donc s'il a des armes à feu ou non. Et donc, par rapport à toutes ces informations-là, on va engager une suite, une poursuite, et des délais d'intervention, et si on part sur une garde à vue ou autre, voilà.
Ce que j'ajoute à ça, c'est un mot qui est très important en matière de police, c'est le discernement. Mm-hmm. C'est d'arriver à savoir dans quelle mesure on est dans une situation d'urgence ou pas d'urgence. Et ça, c'est pas toujours simple, mais ça fait partie du rôle du policier. Et pourquoi il y a cet avis magistrat aussi, c'est parce que il n'est pas seul en fait à décider s'il y a une notion d'urgence ou pas.
Mm. Est-ce que lorsqu'on dépose une main courante, on contacte également le parquet? Ou c'est seulement pour une plainte?
Oui, systématiquement.
Si
on part dans le domaine de la violence conjugale, ça fait partie des choses qui ont bien évolué ces dernières années. Effectivement, on alerte directement le magistrat qui peut de lui-même nous dire on part sur une procédure judiciaire et nous, on inclura la main courante dans une procédure judiciaire. Il n'y a aucun problème là-dessus. La difficulté qu'on va avoir, c'est sur les éléments qu'on aura réussi à récupérer de la part de la victime. Parce qu'on a des victimes qui veulent des fois nous parler d'un fait, encore une fois, précis, récent, qui vient d'arriver. Mais nous, pour pouvoir travailler, il nous faut l'entièreté de l'histoire, en fait, de la genèse de tout ce qui s'est passé. Et peut-être qu'il y a des faits qui sont pris comme étant normaux par la victime et qui, pour nous, ne le sont pas du tout. Donc nous, on va devoir avoir un maximum d'informations. Donc on fait revenir un maximum de souvenirs. Eh bien, c'est des moments qui ne sont pas forcément simples, qui ne sont pas forcément faciles et que la personne n'est pas forcément prête. Donc, une plainte pour des violences conjugales, ça peut durer jusqu'à 4 heures et même plus, selon la facilité que la personne va avoir à se souvenir, à nous parler, à se confier. Parfois, on prend plusieurs rendez-vous pour la même plainte, parce qu'il faut qu'elle puisse respirer, il faut que des fois elle aille chercher les enfants, travailler ou autre. Et des fois, en accord avec la personne, on peut mettre fin à la plainte et dire on revient plus tard, vous revenez demain et on va continuer à avancer là-dessus.
Catherine Morin, ouais, oui.
Et je voudrais vraiment saluer le travail qui est fait ici par les policiers qui prennent les plaintes parce que, alors, ils ont plus de temps que dans d'autres grandes agglomérations, mais ils le prennent et je crois vraiment qu'il y a une écoute. Une vraie écoute des victimes par les policiers qui prennent les plaintes dans le commissariat, et bah, c'est précieux.
Oui, sur l'écoute, il y a la police est souvent pointée du doigt sur ces questions-là, dans la capacité d'écoute, la remise en cause parfois aussi de la parole des femmes qui viennent. Comment et que répondez-vous à ces problématiques, à ces remarques?
C'est un vrai sujet, mais sur lequel on a fait d'énormes progrès, je pense. Il y a encore une marge de progression, mais entre la police d'il y a 10 ans et celle d'aujourd'hui, aujourd'hui, il y a un univers, un monde colossal. On a vraiment avancé. Et je pense que maintenant, les policiers ont quasiment tous, ou tous, j'espère, à l'esprit de l'importance de leur comportement, de l'exemplarité dont ils doivent faire preuve. Et ils savent maintenant, hein, parce qu'il y a une médiatisation qui fait qu'on sait les conséquences que peuvent avoir une plainte mal prise ou une femme qui a été renvoyée parce qu'il n'y avait pas assez d'éléments. On sait qu'il y a des morts qui peuvent être arrivées après. Donc je pense qu'on a vraiment fait un travail tous, un travail collectif. Et ça, y a du mieux, mais évidemment, ce n'est pas encore parfait. Il y a encore des choses à améliorer et on y travaille.
Et comment vous y travaillez? Comment mettre ça en œuvre en interne, enfin au sein des commissariats?
Mais il y a déjà des formations qui sont obligatoires, qui ont été suivies par tous les policiers susceptibles de prendre des plaintes, d'être à l'écoute, d'être au poste et même en intervention en extérieur. Je tiens à rappeler aussi que prendre une plainte pour des violences conjugales, pour des faits graves, c'est pas anodin. On demande aux policiers, et c'est normal, d'avoir une grande empathie, mais avoir une grande empathie aussi, c'est ressentir des éléments qui peuvent arriver parfois à vous glacer le sang, et en même temps on demande à ce qu'ils soient suffisamment techniques pour qu'on ait tous les éléments sur la plainte. Donc on peut, il y a cette dualité où on demande à la fois à un homme technique qui va rédiger un procès-verbal extrêmement important qui va être lu, relu, re-relu à nombreuses reprises et sur lesquels jusqu'au dernier juge on va s'apporter, et en même temps avoir une écoute. C'est aussi avoir les yeux un petit peu sur l'ordinateur, un petit peu sur la personne, et le cerveau qui doit écouter au présent et qui doit penser à la question d'après. Et quand la personne nous dit une chose sur laquelle on ne s'attendait pas, il faut qu'on se souvienne ce qu'on avait prévu de poser comme question, tout en rebondissant sur ce qu'on nous dit. C'est vraiment des auditions qui sont extrêmement compliquées. C'est pour ça que parfois, on en fait une, deux, trois. Et on peut comprendre aussi que pour la victime, c'est compliqué de retomber, de rechercher ses souvenirs et pour revenir là-dedans. Donc, tout est vraiment très compliqué. Mais on progresse, vraiment, on progresse là-dessus.
Puis on a des référents. Hein, on a des référents pour ces thématiques-là, au commissariat, dans tous les commissariats, pour la thématique des violences faites aux femmes, des violences faites aux enfants. Voilà, on a mis en place tous ces référents qui permettent d'avoir une personne prioritaire à qui s'adresser.
Et on sait aussi qu'une personne qui vient porter plainte peut être accompagnée aussi pour aider justement en parallèle de venir voir le commissariat pour se reconstruire, mais aussi pour peut-être retrouver les souvenirs, être soutenu émotionnellement par d'autres acteurs du territoire dont le rôle est différent de ceux du commissariat.
Vous savez, pour nous, l'objectif, c'est que ça se passe le mieux possible. Et que la victime se rende compte qu'elle est bien entendue et que nous, on ait la procédure la plus efficace possible. Si on peut avoir une personne qui peut nous amener, nous aider en ce sens-là, il n'y a aucun problème pour nous. Donc si elle veut venir, être accompagnée, il n'y a pas de problème. Il faut que ce soit dans l'efficacité, par contre.
Vous disiez que vous travaillez justement avec d'autres acteurs du territoire. Est-ce que peut-être on peut les citer pour donner une idée des acteurs qui sont présents sur le territoire et vers qui vous tournez également ?
Alors, on a Mediavic, qui est vraiment l'association prioritaire avec laquelle on travaille et qui est très régulièrement au commissariat et qui va accompagner les victimes, en fait, après, dans les démarches qu'elles peuvent avoir. On a le CCAS, qui peut mettre à disposition un appartement s'il y a un besoin urgent d'extraire la victime de chez elle. Ensuite, on a le parquet dont on a parlé. On a la permanence des avocats, avec des avocats dédiés qui peuvent répondre et conseiller les femmes. Le CIDFF, et puis après les numéros
d'urgence, voilà. Ou de conseils, on leur donnera à la fin de cette émission.
Et donc rappeler que le commissariat est H24 ouvert, c'est-à-dire qu'il y a toujours des policiers dans le commissariat. À n'importe quelle heure, si une femme est en danger, elle peut appeler, elle tombera sur un policier et une patrouille pourra se rendre immédiatement à son domicile.
Encore une chose qu'on peut dire, s'il y a des femmes qui ont un doute, voilà, je ne sais pas si je suis dans la violence conjugale, je ne sais pas si je vais déposer plainte, si je suis même courante, venez, discutez, on en parle. Comme je dis souvent, on n'est pas obligé de repartir avec un bout de papier. Peut-être que ça vaut le coup de déposer plainte, peut-être pas. Vous n'êtes pas de la police, vous n'êtes pas juriste, venez, on discute et on verra. Et vous déciderez, vous, après, ce que vous voulez en faire. Mais venez.
Oui, puisqu'on peut être victime de violence, mais ne pas déposer plainte aussi. La plainte n'est pas l'unique moyen pour sortir de ces violences.
Alors, c'est pas l'unique moyen, ça va dépendre de certains cas. Ça va toujours dépendre quand on est un peu entre la dispute et la violence. Est-ce que c'est une passade, est-ce que c'est pas une passade ? Là, je vais avoir du mal à répondre sur un hors cas concret, on va dire. Mais la question peut se poser. Il faut venir de toute façon au commissariat parce que on peut avoir la réponse là-dessus. Après, effectivement, par la suite, il y aura un soin, il y aura une aide qui devra être apportée à la personne qui ne sera pas que de l'ordre judiciaire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre tout son espoir, se dire, voilà, dès lors que le magistrat va condamner mon mari, l'auteur de mes violences, ça prouvera à tout le monde, à ma famille, au boulot, aux personnes que je croise, que je suis une vraie victime. Non, il ne faut pas s'attendre à ça, il ne faut pas mettre tous ses espoirs là-dedans, il faut se reconstruire soi-même, ça peut être sur du social, sur du médical, chacun peut trouver sa voie, des discussions tout autre, mais il ne faut pas se dire, si la justice ne le condamne pas, c'est qu'il n'a rien fait. C'est faux, il nous faut des éléments, il faut se reconstruire de toutes les manières possibles.
J'ai oublié dans la liste, bien sûr, des personnes avec lesquelles on travaille, c'est le monde médical et notamment l'hôpital, soit qui nous appelle quand il y a des signalements, quand il y a des personnes qui se présentent à eux et qui sont victimes de faits importants, soit dans l'autre sens, quand nous, on a besoin d'obtenir un certificat médical pour une victime qu'on va adresser à l'hôpital. Donc voilà, il y a un vrai lien qui est entre nous.
Oui, et la prise en charge est donc... complexe et complète avec tous ces différents acteurs. Je vous propose qu'on fasse une pause musicale. Tout de suite, on écoute une musique d'Otilie, Mon corps, mes règles.
Pour saigner, trembler, désir, mon corps, mes règles.
Mon corps, mes règles. Mon corps, mes règles. Mon corps, mes règles. Mon corps, mes règles.
Qu'importe ce que tu penses de mes actes manqués et de ce réussi pour ce que j'ai changé et que je t'aurais donné, de ce que j'ai repris, de ce que je ne pourrais, du plaisir partagé, de ce qui est gratuit. Qu'importe ce que tu penses, c'est bien moi qui choisis. Mon corps est unique, il est ce que je suis. Donc comment voudrais-tu encore le ranger dans tes catégories? Oh. Ce qui genre et qui instaure mémoire et devenir mon corps, mes règles. Ce qui libre et qui sonore pour quartier privé fleurir. Mon corps, mes règles. Ce qui vit, ce qui s'agite, résiste et crie, guérir. Mon corps, mes règles. Ce qui se doute, ce qui s'ignore, pour aimer et pour finir.
Et vous écoutez le magazine du Midi sur Fréquence Mistral. Aujourd'hui, nous parlons des violences faites aux femmes et de la lutte contre les violences faites aux femmes avec Catherine Morana, chef du commissariat, et Olivier Persicot, officier de prévention au commissariat de Briançon également. Alors, nous avons parlé surtout de la partie de la plainte, qui est une de vos missions évidentes au commissariat sur ces questions-là. Il y avait aussi l'action, la prévention. Vous en parliez tout à l'heure, Olivier Persicot, vous intervenez, vous disiez, auprès des lycéens plutôt ?
Alors plutôt des lycéens, mais j'ai également fait les maisons de retraite. Donc j'ai aussi proposé ce genre d'action et j'ai été retenu par plusieurs lycées effectivement pour en parler aux jeunes élèves entre la seconde et la terminale, tout à fait.
C'est la mission de prévention, c'est une mission qui est courante dans les commissariats en France sur ces questions ou c'est propre à ce territoire ?
Alors, la prévention en général se fait dans tous les commissariats de France, hein, y a pas de souci. Après, moi, j'avais senti ces dernières années qu'il y avait peut-être un besoin à ce titre-là, à ce niveau-là, pour compléter un petit peu les préventions que je faisais sur le harcèlement. Et puis, du coup, j'ai créé cette séquence-là que je fais avec les élèves de discussion autour des violences conjugales. Et c'est, en fait, pour surtout faire la grosse différence qu'il y a entre les violences conjugales et les disputes qu'on peut avoir dans un couple qui sont tout à fait normales.
Et comment réagissent les lycéens ? Est-ce qu'ils sont déjà au fait de ces questions ?
Ben, comme je vous ai dit, on n'est pas loin du harcèlement. Donc, une fois que je leur ai fait le parallèle entre ces deux choses, effectivement, ils vont avoir dans leur cerveau, dans leur mémoire, un travail. Et eux-mêmes vont arriver à trouver pas mal de choses par rapport à ces domaines-là. Donc, ça va être très, très intéressant. Mais il y a des choses dans lesquelles ils ne se rendent pas compte parce que, eh ben, on a derrière toute une histoire, toute une représentation qu'on peut avoir toutes et tous. Donc, il y a des choses, ils ne se rendent pas trop compte. Et puis, il y a aussi la différence entre la justice, entre la morale. Ce sont des choses qui sont assez compliquées pour les jeunes et qui ne sont pas aidées non plus avec les représentations qu'on peut avoir dans certains réseaux sociaux ou autres. Donc, il y a un gros travail à faire là-dessus.
Il y a un travail éducationnel qui est fait. Alors, Olivier fait de la prévention, mais il y a un travail éducationnel qui doit être fait, évidemment, par les familles et puis en priorité. Mais chaque adolescent ou chaque enfant à qui on va pouvoir semer une petite graine, eh ben, c'est quelque chose de gagné. Donc, la prévention, pour rebondir, c'est quand même quelque chose qui est de plus en plus développé. Mais je pense qu'il y a quelques années, on en était loin. Donc, ça aussi, ça fait partie des choses sur lesquelles on a amélioré. Et Olivier, il fait vraiment un grand travail à Briançon et un peu au-delà.
Et vous, Catherine Morana, vous étiez dans un autre commissariat avant.
Oui.
C'est quelque chose ici qui vous semble important et que vous avez remarqué. Vous disiez ça vous tient à cœur, cette thématique.
Alors,
et ce développement-là dans le commissariat ?
Alors, en fait, j'étais pas dans un commissariat avant. J'étais à Marseille, mais dans une grande ville où j'avais une vision importante de ce qui se passait. Et c'est vrai que ce que je remarque ici et qui est une chance, c'est que le commissariat est petit, la ville est relativement petite. On a donc beaucoup plus de temps à accorder au public, à chaque victime, mais au-delà, au public quand on patrouille, quand on est dehors. Il faut imaginer que vous allez au commissariat de Noailles à Marseille, il y a un policier qui prend une plainte, mais il y a 50 personnes qui attendent à l'extérieur pour déposer plainte. Donc il y a une espèce de pression qui fait qu'ils vont avoir, malgré leur volonté, mais moins de temps à accorder aux victimes, alors qu'ici, on a du temps. Et c'est précieux, donc on essaye de l'utiliser à bon escient.
Et lorsque vous utilisez ce temps, donc je reviens encore sur la prévention, qu'est-ce que vous leur dites à ces jeunes ? Quelles sont les clés pour observer une violence faite aux femmes, mais qui peut-être se voit ailleurs, mais...
Alors moi je leur dis pas grand chose finalement, je fais en sorte que eux réfléchissent au cas que je leur présente. Le but c'est qu'ils aient encore une fois le bon réflexe, se dire voilà, s'il se passe ça, comment je réagis ? Parce qu'en fait il y aura jamais deux cas identiques. Donc je veux qu'ils réfléchissent, je veux qu'ils se mettent dedans. Par contre il faut qu'ils aient des outils. Et on parle notamment beaucoup d'emprise, pour bien comprendre la différence entre une taquinerie du harcèlement ou entre une dispute et des violences conjugales. Cette notion d'emprise elle est extrêmement importante. Et c'est ça c'est ce point sur lequel j'insiste beaucoup. Mais les réponses, ils les ont toutes et je veux juste qu'ils aient les bons réflexes.
Est-ce qu'on pourrait définir justement cette emprise alors ?
Cette notion d'emprise, en fait, c'est une notion qui a tendance en plus à se développer à notre époque, qui est vraiment une personne qui veut prendre la maîtrise de l'autre, en fait. On est sur ce côté maîtrise. Et petit à petit, la personne qui est victime de cette emprise s'en rend même plus compte. Se rend plus compte de ses droits, de ses possibilités et trouve normales des situations qui ne le sont absolument pas. Et même va arriver à trouver des excuses, des raisons pour le fait qu'elle ait reçu des coups, reçu des insultes, qu'elle soit maltraitée, qu'elle soit dévalorisée systématiquement. D'autant plus qu'on a ce qu'on appelle le cycle des violences, en fait. Pour faire simple, c'est une personne, au départ, tout va se passer bien dans le couple, et puis après, un événement souvent simple, bateau, une dispute, je dis souvent la soupe est trop chaude ou trop froide, et ça va partir. Donc après, l'auteur va commencer à avoir une réaction qui va être physique ou pas physique, humiliante ou pas. Puis, petit à petit, il va commencer à dire « Je m'excuse, mais c'est quand même toi qui as fait cette soupe trop chaude ou trop froide. » Mais la victime va penser que c'est vraiment de sa faute si elle a reçu après les coups physiques ou psychologiques. Et puis après, c'est pseudo-excuses, parce qu'on en parle quand même de pseudo-excuses, il va y avoir un retour. L'auteur va redevenir la personne dont est tombée amoureuse la victime auparavant. Tout va se passer très très bien dans le couple. Et hélas, ce qui va rester dans l'esprit de la victime, c'est eh ben, si j'avais pas fait la soupe trop chaude ou trop froide, tout se passerait bien entre nous. Et c'est cette notion-là qu'il faut avoir. Parce qu'il y aura un nouveau fait derrière et ça va s'augmenter. Les faits vont être de plus en plus graves et les réactions de plus en plus régulières.
Très bien, eh bien merci. C'est bien d'avoir aussi ces explications ici à la radio. Finalement, la prévention, on pourrait en avoir pour toutes et tous, pas seulement les lycéens. Vous, vous intervenez principalement auprès d'un public jeune. Vous disiez que vous alliez aussi parfois dans des maisons de retraite
mêmes thématiques. Dans les maisons de retraite, pour ces thématiques. Mais en fait, tout établissement, même professionnel, il m'est arrivé aussi d'aller dans les bars, dans d'autres établissements, si ils peuvent avoir des besoins, ça peut même être des associations sportives ou autres, s'ils ont des besoins de prévention, ils peuvent tout à fait venir au commissariat et nous demander, on peut travailler dessus. Moi, je peux créer les thèmes sur mesure, donc il ne faut pas qu'ils hésitent à venir s'ils voient des besoins dans un thème ou dans l'autre.
Nous arrivons à la fin de cette émission. Peut-être, est-ce qu'il y aurait un mot de la fin, quelque chose à ajouter sur cette lutte contre les violences faites aux femmes? Je ne sais pas, peut-être Catherine Morana
Mais déjà, merci de nous avoir invités, de nous avoir donné la parole, parce que c'est vraiment important pour nous de pouvoir présenter notre travail et de vous dire qu'on est là et qu'on a encore du travail à faire tous ensemble. Et voilà, donc le mot de la fin, il est là pour moi. Et rappelez, le 17... Le numéro.
Oui, on va rappeler les numéros, tout à fait. Donc, si besoin, pour appeler la police, en cas d'urgence ou éventuellement de conseil, on peut appeler donc le 17.
Alors, le 17, c'est vraiment pour l'urgence.
Urgence, voilà. J'ai rien dit. Pour l'urgence, le 17.
Ouais.
Et ensuite, plutôt pour du conseil, de l'écoute, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, il y a aussi le 3919, Violence Femmes Info. Et ensuite, il y a les acteurs du territoire, évidemment, on disait Mediavic, le CIDFF.
Et pour le commissariat, si vous voulez quelque chose de moins urgent, vous avez sur internet moncommissariat.fr avec un chat qui permet d'échanger et de poser des questions et d'avoir des réponses qui vont orienter ensuite.
D'accord. Et puis, on retrouve aussi toutes ces informations, les contacts sur internet assez facilement. Oui. Mais voilà, déjà, le 17, le 39, 19, retenir donc qu'on peut aller au commissariat, enfin, qu'on peut contacter le commissariat via le chat. On peut s'y rendre aussi, vous disiez, Olivier Persico.
Ne pas hésiter, venez poser des questions, on n'est pas obligé de repartir avec un papier, je le répète.
Et puis le CIDFF qui est à Gap, mais qui a des permanences également à Briançon, si besoin à l'hôpital, et Mediavic 05. Merci à tous les deux d'être venus.
Merci à vous.
Merci, au revoir.
Et auditeurs, auditrices, bonne journée, merci à vous pour votre écoute.